6h03, lundi 21 juin. Bonne journée, bienvenue au 98,5 avec un avertissement d'orage pour le Grand Montréal. Donc, ça commence par des nuages ce matin, de la pluie, averse, orage. Et peut-être surtout en après-midi, là, ça risque de devenir un peu plus venteux. Les pointes à 50 km/h, le maximum aujourd'hui 29, l'humidex est à 37. La pluie, là, les averses ou orages potentiels, ça devrait cesser en soirée. Ça demeure couvert par la suite, mais fin d'après-midi, début de soirée, là, période météo un peu plus instable. On prévoit 12 pour la nuit. Pour demain, mardi, généralement nuageux, il y aura un peu de soleil, du temps beaucoup plus frais là, après la pluie. Maximum demain de 17. Et l'aperçu pour mercredi, 23 juin, donc la veille de la fête nationale, c'est du soleil 23. Puis pour le 24, ça risque d'être tout à fait parfait. Là. Et même, je vais inclure la journée de vendredi, on prévoit pour les deux journées, jeudi, vendredi, du temps ensoleillé autour de 28 et 29 degrés. Encore une fois, des fusillades. Sabrina vient de vous décrire. Donc, deux à Montréal-Nord, une dans le quartier Saint-Michel, reliée ou pas. Peut-être pas, puis peut-être aussi un peu, mais c'est sûr que ça vient s'ajouter à la longue liste d'incidents violents où des armes à feu sont impliquées à Montréal. Et c'est toujours à peu près le même scénario. On retrouve des douilles, on a entendu des coups de feu. Dans ce cas-là, il y a deux personnes qui ont été blessées. Mais là, la police doit poursuivre son enquête pour voir qui sont les gens. Puis habituellement, les victimes ne collaborent pas tellement. Mais je comprends l'angoisse que vivent les gens de Montréal-Nord, puis les gens de Saint-Michel, puis les gens qui habitent Rivière-des-Prairies, bref, tout ce qui est nord-nord-est de Montréal, où ces incidents se passent à répétition. Et on le sait, il y a une escouade spécialisée qui a été formée, mais le problème, c'est que les armes circulent. Et quand on parle de ces bandes, ces gangs, si on veut, il n'y a pas de structure. C'est difficile à voir qui a le pouvoir. Puis souvent, c'est un conflit personnel qui peut dégénérer. Et ça donne lieu, donc, à ces événements violents. Je regardais en fin de semaine à Toronto, vous l'avez peut-être vu, là, alors qu'il y a eu une fusillade, il y avait une fête, samedi soir, trois enfants et un adulte, un homme dans la trentaine, qui ont été touchés par des projectiles. Il y a des coups de feu qui ont été tirés pendant cette fête. On est dans un quartier de Toronto, c'est une résidence à l'extérieur, les gens sont réunis, et c'est à ce moment-là que les coups de feu ont retenti. Et là, vous avez même un enfant d'à peu près un an qui a été effleuré par balle et qui a pu être soigné sur place. Il y a une fillette aussi qui a été blessée plus grièvement, puis je voyais entre autres des images de New York assez saisissantes. Quand tu vois quelqu'un qui est pourchassé par un individu, là, qui est cagoulé, qui a une arme et qui pointe l'arme en direction, et le gars court pour ne pas se faire tirer, il s'enfarge sur des enfants qui sont sur le trottoir, puis les enfants tombent au sol. Le gars se fait atteindre de deux projectiles, il s'en est sorti. Mais imaginez ces enfants-là, là, les deux, qui deviennent comme des espèces de boucliers pour protéger quelqu'un qui se sauve d'un tireur. Alors, tous ces événements violents, Montréal, Toronto, New York, montrent à quel point la circulation des armes illégales, je dis bien illégales, est répandue, puis que c'est un fléau. Puis ça me rappelle d'autres périodes, disons, où tu avais des gangs de rue encore plus, prêtes à se battre pour des bouts de territoire. Et ça se passe toujours, malheureusement, dans les mêmes arrondissements, que ce soit Saint-Michel, Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord. Bon, parlons maintenant COVID un peu. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que le Québec devient un peu plus vert avec maintenant le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie et le centre du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, zone verte, là? C'est pas dénué de certaines restrictions. Ça veut dire, par exemple, que vous pouvez recevoir chez vous 10 personnes venant de 3 adresses, là, 3 bulles, à l'intérieur et également dans les unités d'hébergement touristiques. Ce qui fait que, par exemple, aussi pour les funérailles, pour les mariages, on garde ça à 50, puis les lieux de culte, les salles de cinéma, ça peut aller jusqu'à 250. Pour ce qui est des restaurants, ben, on peut s'asseoir 10 à une table, encore là le principe des 3 adresses, toujours 50 % de la capacité maximale qui est prévue au permis, puis vous devez garder une distance. Bref, c'est quand même beaucoup plus souple. On peut se réunir à l'intérieur, à l'extérieur. Fait que c'est vraiment un retour à une vie normale. Pour ce qui est des spectacles, ce qui est prévu, je pense, sauf erreur, là, c'est qu'on va accueillir à partir du 25 juin, donc au lendemain de la fête nationale, à peu près 3000 personnes là, pour ces activités. Pour ce qui est maintenant de la vaccination, soyons assez clairs ce matin. Là. D'abord, il y a une gestion difficile des stocks actuellement. Par exemple, Pfizer, on le sait, a réduit ses commandes, là, semaine du 5 juillet et 12 juillet, ce qui fait qu'au total, on n'a pas loin de 600 000 doses qui n'arriveront pas comme prévu. Des doses qui étaient prévues en fin de semaine ou aujourd'hui sont repoussées vers la fin de la semaine. Tout ça fait en sorte que des gens qui tentent de devancer leur deuxième dose se frappent à un mur, que des cliniques sans rendez-vous où on offrait du Pfizer sont malheureusement plus disponibles. Et là, je le sais, on est dans les groupes d'âge encore, dans la trentaine par exemple, puis des gens qui me disent comment ça se fait qu'on n'est pas capable de réserver. Alors, c'est sûr qu'il y a encore certains problèmes. Il y a des problèmes, évidemment, comme je disais la semaine dernière, d'arrimer le vaccin disponible et le rendez-vous. Alors, actuellement, c'est sûr qu'on a un problème et on espère que ça va, je dirais, se corriger dans les prochains jours. Mais soyez pas étonnés, là, si vous tentez de devancer votre deuxième dose, que ça ne fonctionne pas. Dans certains cas, ça va, là, mais je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Moderna, on prévoit un arrivage, c'est pas déjà fait. On peut penser que pour ce qui est de la vaccination en pharmacie, il y aura de nouvelles doses disponibles. Également, pour ce qui est du fameux code QR, Québec vous invite à aller le chercher si vous ne l'avez pas reçu. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas reçu et certains disent que même pour essayer de le récupérer, c'est compliqué. Alors, il y a, disons, encore quelques ratés dans l'opération de Clic Santé, mais ce n'est pas toujours des ratés technologiques, c'est aussi la disponibilité des vaccins. Moi, je suis allé me faire vacciner, j'avais pris rendez-vous vendredi pour la deuxième dose, donc devancé d'à peu près 3 semaines, là, la date qui était prévue. Et il y avait du sans rendez-vous quand je suis allé, puis les gens pouvaient obtenir Pfizer. On ne criait pas trop fort, là, mais il y a des gens comme ça qui pouvaient se présenter et obtenir leur deuxième dose. Alors, mais on a toujours comme cible, évidemment, la fin du mois d'août pour vacciner au max les Québécois avec les deux doses. Puis je regardais aux États-Unis, quand vous prenez les 18 ans et plus, là, on va exclure les ados, là, actuellement, 65 % des Américains sont vaccinés à une dose. Les gens à deux doses, c'est un peu plus de la moitié des Américains. Donc, ça veut dire qu'au Québec, on est très loin de la moitié des Québécois, mais on devrait y arriver dans les prochaines semaines. Mais ce que ça montre, puis c'est pour ça qu'il y a tous ces incitatifs, aux États-Unis, ça demeure compliqué de convaincre une partie de la population de se faire vacciner au moins une fois. Et pour ce qui est des cas, ben vous avez vu le bilan hier, une centaine de cas. Il y a toujours une préoccupation pour ce qui est du variant. Puis moi, je regarde les commentaires. Vous avez des experts qui disent, ben une variant, oui, mais la vaccination qui va bien protège aussi bien. Et puis on le voit, c'est pas parce qu'on a reçu une dose, deux doses du vaccin qu'on peut pas avoir la COVID. Ça veut juste dire qu'en principe, même si vous allez me parler d'un cas, je pense en Ontario, quelqu'un qui est pleinement vacciné, quand même décédé, là, mais la preuve, c'est que Ducharme, qui a été vacciné, n'a pas véritablement de symptômes, là, l'instructeur du Canadien. Alors, on est en route vers cet objectif. Et dans ce sens-là, je pense que c'est, encore une fois, l'important, c'est d'insister sur la vaccination. Quelques autres nouvelles à travers le monde concernant le variant, là, parce qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui disent qu'il faut garder des mesures, mais même si on est en jaune, en vert, on en garde des mesures de distanciation. Puis encore là, fin de semaine, je suis allé à 2-3 endroits, puis les gens portaient le masque dans les commerces, puis ils essaient de garder le 2 mètres. Mais disons que la vie sociale reprend, je dirais, de plus en plus, et c'est tant mieux. Bon, coup d'œil sur les autres nouvelles maintenant. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, nous a annoncé hier que dorénavant, quand on va appeler un service gouvernemental et qu'on nous met en attente, c'est fini la musique d'ascenseur pour lesquelles on ne paye pas de droits. Et on aura à la place de la musique 100% québécoise. Tu dis très bien. Quels sont les détails? 90%, ce sont des chansons francophones. Et pour le reste, anglais et autochtones. Puis il paraît que c'est déjà commencé à certains endroits. Tout ça pour encourager la culture québécoise. Puis là, évidemment, on peut poser un paquet de questions. Est-ce qu'on va entendre du Céline Dion en anglais, en français? Il y a des artistes qui vont faire le choix. Toujours peur qu'un comité se mette le nez là-dedans. Là. Est-ce que c'est la disque qui va faire la recommandation? Qui va déterminer la liste des pièces qu'on va retenir, puis c'est quoi la mécanique de ça. Et on peut, je pense, être d'accord avec le principe. Quoique hier, je voyais qu'il y a du monde qui chialait sur les réseaux sociaux en disant que le gouvernement ne devrait pas se mêler de ça. Mais là, on parle de la musique quand t'attends. Puis mettons que si vous appelez les services gouvernementaux, ça se peut que t'attendes assez longtemps. Alors, tout ça pour te faire apprécier, découvrir la musique. T'sais, la musique d'ascenseur, c'est neutre, c'est plate, là. T'sais, fait que t'entends ça, puis tu mets ça sur ton main libre. Là, ils vont nous mettre des chansons de qui? Comment? Puis en tout cas, on a hâte d'entendre ça, de voir. La ministre va être avec nous tantôt pour tenter de déterminer clairement qui va faire le choix musical. Quel DJ va être en charge pour le gouvernement de nous faire une liste. Autre nouvelle ce matin, c'est Radio-Canada. Ça vous est peut-être arrivé dans cette chasse à la place aux garderies. Il y a des garderies privées qui demande aux parents de payer des montants, une forme de dépôt non remboursable. Puis là, les montants varient. Alors, selon Thomas Gerbet de Radio-Canada, il y a des gens qui se sont fait exiger un dépôt de 100 $ puis dans certains cas, c'est allé jusqu'à 500 $ Et là, on donne l'exemple de l'Académie Les Petits Sportifs à Saint-Hubert. Et là, on a dit, ben, vous voulez une place d'ici le mois de juillet 2022, là, pas cette année, dans plus d'un an, vous payez 175 maintenant, puis c'est pas remboursable. On vous garantit une place, on vous dit pas quand, mais ça va finir par arriver. Évidemment, c'est illégal. Et il y a eu des plaintes à l'Office de la protection du consommateur, mais j'aimerais ça que vous partagez avec moi cette expérience. Il y a beaucoup de parents qui nous écrivent, là, qui cherchent des places. On est supposé améliorer le système, là. Mais disons que ça ne crée pas de place. Et là, on voit des garderies privées qui profitent un peu de la détresse des parents, puis que les parents sont prêts à payer des montants que tu ne devrais pas payer normalement. Envoyez-moi un petit courriel pour me dire ça. Conflit chez Exceldor, il n'y a rien de réglé. Le syndicat ne veut rien savoir d'un arbitrage. Il y a eu des discussions, mais l'écart demeure énorme. Entre le 25 $ l'heure demandée et le 21 $, 21,50 $ proposé, on est encore assez loin. Ce qui fait que vous avez des poulets qui sont transportés ailleurs, puis la durée du voyage est assez courte, puis d'autres qui sont encore euthanasiés. Moi, je connais pas trop ça, ce domaine-là, mais j'aimerais ça savoir si les conditions de Exceldor sont comparables à ce qu'on retrouve chez Olimel ou dans le marché. Est-ce que les employés d'Exceldor sont si sous-payés qu'il faut demander 40 % d'augmentation d'un coût? Aucune idée. Puis moi, j'entends des choses pas très jolies sur Exceldor comme employeur, puis là, le syndicat joue gros là-dedans. Mais la conséquence, c'est évidemment ce gaspillage alimentaire qui n'a pas de bon sens, là. Puis je sais que beaucoup de producteurs n'aiment pas ça, mais on peut-tu se questionner sur la production, le système de production au Québec, là? Tu as un conflit de travail, puis il faut que tu te débarrasses d'autant de poulets. C'est bien beau, la concentration, mais quand même. Alors, le ministre de l'Agriculture sera avec nous un peu plus tard ce matin. Dans Le Devoir, il y a un article assez intéressant sur les communautés religieuses qui ont été condamnées ou qui font l'objet de recours collectifs pour des abus sexuels commis par des prêtres. Et ce que Le Devoir découvre, c'est que certains ordres religieux ont déplacé de l'argent pour éviter de compenser les victimes. Évidemment, les communautés vous diront pas du tout, ce sont des transactions normales, des transferts de fonds. Mais par exemple, il y a à peu près une dizaine d'années, les clercs Saint-Viateur qui faisaient l'objet de recours pour des prêtres qui ont abusé de jeunes malentendants, les périodes d'abus sexuels, années 40 jusque dans les années 80, ont déplacé des sommes importantes. On parle de 16 millions. Puis là, vous lirez dans le Devoir les détails là, des transactions, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de l'argent à l'écart et ça ne peut pas servir à dédommager. Donc, des victimes d'abus sexuels qui normalement devraient être compensées ou qui sont en attente de jugement, mais là, on découvre que les communautés comme ça tassent l'argent, puis même dans certains cas, déplacent l'argent à l'extérieur. Et quand on parle des clercs, on donne l'exemple du frère Gérard Wessel, ancien directeur du collège Bourget de Rigaud, qui a été arrêté pour abus sexuels en 2011. Il a finalement été acquitté, mais il a de nouveau été arrêté l'an passé par la Sûreté du Québec avec 4 autres membres de la congrégation. Bon, ben Gérard Wessel, c'était aussi économe, le frère économe. Puis, en plus, il a participé au déplacement des fonds. Puis, malgré le fait qu'il avait été arrêté, il est resté en poste aux finances des clercs de Saint-Viateur. Disons que ça regarde assez bizarrement. Dans le Devoir ce matin, vous aurez tous les détails. Puis, un mot aussi sur le Journal de Montréal qui nous parle d'entrepreneurs, surtout le groupe Geyser, qui demande d'être payé pour des travaux effectués au parc Jean-Drapeau. Il semble qu'il y a des factures qui totalisent 10 millions qui n'ont pas été payées. Là, c'est le genre de litige où vous avez l'entrepreneur général qui dit « j'ai fait tel travail ». Le parc Jean-Drapeau dit « ben ça n'a pas été bien fait ». Puis tu as les sous-contractants qui n'ont pas été payés. Alors tout ça, c'est une espèce de cascade d'à peu près, je vous dirais, une dizaine de millions. Et puis un mot sur les élections en France. Le taux de participation est au plus bas, pour reprendre l'expression du journal Le Monde ce matin. Il n'y a pas de scrutateurs, il n'y a pas de citoyens pour voter dans les bureaux. C'est un sentiment de désertion. Alors que quand vous regardez les chiffres, 2 Français sur 3 n'ont pas voté aux élections régionales et départementales. C'est un niveau d'abstention record pour la France. Et on s'attendait à une poussée de Marine Le Pen. C'est pas arrivé. Ça a été un moment difficile pour Macron également. Alors, c'est une étape, c'est un premier tour. Mais ça en dit long sur le niveau de désintérêt, particulièrement des jeunes, face au système politique français. Il est 6h22. Allons voir ce qui se passe sur la 40.